RMC, 9h midi, les grandes gueules en direct de Marseille.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour à tous, bienvenue sur RMC, RMC Story, à événement exceptionnel, déplacement exceptionnel avec les GG, avec les grandes gueules, puisque nous sommes en direct de Marseille, en direct de la terrasse du Mucem pour vivre ensemble l'arrivée de la flamme olympique. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour les Marseillais. Ça y est, on y est, le soleil marseillais nous accompagne, le temps est magnifique. Et alors la vue de cette terrasse du Mucem, elle est vraiment idéale pour participer à cette journée historique et l'arrivée du Bel Aime tout à l'heure. Mais la fête a déjà commencé à Marseille, on va en parler dans un instant.
Oui, on va en parler à la mode GG, bien sûr, avec nos amis Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire. Bonjour mon cher
Bonjour
Didier.
Bonjour à la France profonde et plus particulièrement Marseille.
Et puis Joël Dagosséry, vêtu d'un blanc virginal, est avec nous aujourd'hui, la coach de vie. Bonjour ma chère Joël.
Bonjour à tous et bonjour aux Marseillais, c'est vraiment magnifique, je suis heureuse d'être là.
Voilà. C'est un blanc fleur de lys.
T'as amené ta voix quand même aujourd'hui?
Oui, j'ai amené ma voix.
Et puis Mehdi Guézard, que l'on on s'est dit, pourvu qu'il ne soit pas muet demain, le supporter du PSG, le patron de PME. Bonjour mon cher Mehdi.
Bonjour à toutes et à tous.
T'as beaucoup crié,
cache ta voix, cache ta voix. Alors, on va y venir bien sûr, parce qu'on va vous faire vivre les coulisses de ce qui s'est passé dans les GG hier, puisque nous avons vécu le match Marseille PSG Dortmund en direct d'un bar des copains d'Éric Dimeco, et Éric était là.
C'était assez baroque de suivre la défaite parisienne aux côtés de Marseillais.
Côté de la joie des Marseillais. Mais on va vous expliquer quand même ce qui va se passer dans les GG, dans les grandes gueules, en direct de Marseille. Donc aujourd'hui, nous serons avec Redouane Bougueraba, l'humoriste de Marseille, qui va porter la flamme demain. Nous serons avec la secrétaire d'État en charge de la ville, Madame Agresti Roubache. Pour être bien sûr que cette fête autour des Jeux Olympiques, c'est une fête populaire. C'est-à-dire que ça concerne tout le monde et pas uniquement ceux qui pourront accéder au port. Est-ce que dans les quartiers, partout en France, on va vivre l'arrivée de la flamme? À la mode GG aussi, on va parler quand même de ce que le président de la République évoque dans une interview à elle, un devoir de visite pour les pères absents en cas de divorce. Ce sera un sujet de discussion qu'on aura à 10h20, parce qu'il n'y a pas que la flamme olympique dans la vie. Mais d'abord, donc, comme promis, vous allez vivre avec nous les coulisses de l'élimination du Paris Saint-Germain. Nous étions donc dans un bar à proximité d'ici, qui s'appelle Nulle Part Ailleurs.
C'est un resto même, d'ailleurs.
Un restaurant, ouais, bar-restaurant. Et voilà ce qui se passait au moment du premier but.
Il faut raconter que les Marseillais applaudissent le but allemand. Hein.
Le but de Dortmund.
Voilà. Les Marseillais, quand les Allemands marquent, ils sont vent debout.
Ouais, et vous entendez, et ils sont où? Ils sont où les Parisiens, bien sûr? Parce que ça a chambré durant les 90 minutes. Et lorsque le coup de sifflet final a été donné, qu'on a vu les joueurs parisiens tomber à genoux, être dépités, voilà l'ambiance dans le bar-restaurant Nulle Part Ailleurs. Il y avait un petit refrain qu'on a l'habitude d'entendre dans les stades. Et alors,
faut surtout expliquer comment.
Pour tout vous dire, parce que je vais vous raconter toutes les coulisses. Avec Olivier, quand on est arrivé de l'aéroport, il nous restait quoi? Une demi-heure de match. Olivier n'a pas voulu rentrer dans le bar-restaurant. Il est resté à l'extérieur avec son portable. Moi, je rentre dans le bar-restaurant pour saluer toute l'équipe. Mais Mehdi Guézard était d'un côté
quasi prostré.
Bar-restaurant prostré. Et à ce moment-là, quand même, à la fin du match, il y a Éric Dimeco qui est venu te consoler.
Qui est le meilleur des Marseillais.
Voilà, qui est venu te saluer en disant, écoute, tant pis, ce sera pour à jamais les premiers et les Marseillais, et ce sera pour une autre fois.
Voilà, bah, écoutez, c'est dommage. Hier, Luis Enrique a été remplacé par Denis Brognard. On a joué à Koh-Lanta avec les poteaux, donc voilà, c'est pas grave. On va essayer l'année prochaine.
6 poteaux en 2 matchs, c'est ça?
Ouais, 6 poteaux. Non, sur les 2 matchs, ouais, je crois 7 poteaux.
Ouais, 7 poteaux.
Sur les 2 matchs. Mais après, ça arrive. Et puis, on sera là l'année prochaine, contrairement aux Marseillais qui la verront à la télé. Nous, on la jouera l'année prochaine. Et puis voilà, tout simplement.
Didier, toi qui étais notre témoin.
Écoute, moi, j'étais un peu l'instigateur d'être dans ce lieu parce que cette loge maçonnique à la gloire de la défaite parisienne, fallait quand même y voir, quoi. Et j'ai vu des gens habiter de la défaite parisienne parce qu'ils sont marseillais. Et moi qui me suis construit dans le rugby de clocher, je sais ce que ça veut dire, les rivalités entre villages voisins. Et moi, je trouve que c'est aussi ça le sport.
Bien sûr.
Mais enfin, il y a rien de très grave là-dedans.
C'était
bon enfant.
C'était bon enfant. Mais par contre, nous supporters parisiens, pour l'indice UEFA, nous souhaitons
bien sûr
une bonne chance pour ce soir, pour l'Olympique de Marseille.
C'est demain.
Ouais. Jeudi, ouais.
C'est
demain soir pour l'Atalanta.
C'est toute la différence entre un Marseillais et un Parisien. C'est voilà. Que nous, on souhaite que Marseille aille jusqu'au bout
et qu'elle aille en finale, qu'elle remporte même cette finale.
Et on ne va jamais célébrer les
Français en Coupe d'Europe. En championnat, il n'y a pas de débat parce que bon, ça fait 20 ans qu'ils sont derrière nous, mais au moins en Coupe d'Europe,
ils peuvent. Joël, un mot quand même, parce que Joël était avec ses garçons.
Oui, j'étais là au début. Je suis arrivée, mais ils étaient déjà très stressés, vraiment stressés. Et normalement, je suis marseillaise, mais j'ai pas réussi à exprimer ma joie parce que j'avais juste en face de moi Mehdi et ça me faisait tellement mal au cœur. Mais il a souffert. Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un autant.
Tu sais, moi j'avais préparé un maillot très très convenir hier et quand j'ai su qu'il y avait Mehdi, j'ai pas mis mon
maillot. Ouais, parce que
franchement,
c'était dur.
Et vous pourrez continuer d'en parler si vous le souhaitez, bien sûr, au 32-16. Mais ça, c'est super Moscato Show avec Rotten sans flamme, avec l'after sur RMC tout à l'heure. Le super Moscato Show d'ailleurs qui sera en direct de Marseille aussi. Allez, venons-en à l'arrivée de la flamme. Maintenant, on va accueillir notre premier invité.
RMC, les grandes gueules.
L'arrivée de la flamme à bord du Belém, ça va être l'événement, la fête aujourd'hui à Marseille. On va en discuter avec Étienne Taubois, qui est le directeur général de Paris 2024. Bonjour Étienne.
Bonjour.
La flamme arrive, c'est à la une de la Provence, le quotidien marseillais aujourd'hui. Alors le Belém n'est pas encore là, il sera là tout à l'heure, il va aller sur la rade nord, la rade sud, et ensuite il rentrera dans le Vieux-Port, ça sera ce soir. Mais on a l'impression que c'est aujourd'hui que commencent véritablement ces Jeux Olympiques. Paris 2024, non ?
C'est aujourd'hui que la flamme, elle arrive. Hein. Donc, c'est là où ça devient vraiment concret. Donc, ça va être une journée un peu incroyable. C'est chouette de la faire ici à Marseille, parce que quelque part, on est voilà, dans l'entrée Méditerranée. La flamme, elle vient de Grèce.
Elle est partie le 16 avril.
C'est ça, elle a été allumée le 16 avril. Oui. Après, elle a fait un petit tour en Grèce, et puis traditionnellement. Et puis là, elle est montée sur le Belém la semaine dernière. Elle a traversé, et puis elle va arriver à Paris. Pour la cérémonie d'ouverture.
Oui, parce qu'avant Paris, il y aura tout un parcours, un tour de France.
Un petit périple, 17 000 km, 450 km.
Mais c'est quoi l'arrivée de la flamme, en fait ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le bateau arrive, il y a une grande flamme à la proue du bateau ? Comment
ça va se passer ce soir ? Je vous laisse la surprise, mais on connaît le premier relayeur, donc Florent Manodou, qui, Marseillais d'adoption, champion olympique, va avoir l'honneur, finalement, d'être le premier à marcher sur le territoire français avec cette flamme olympique, ce symbole, 100 ans après. Donc,
Mais si Florent Manodou est le premier à porter cette flamme olympique, qui va allumer la flamme, le chaudron olympique ? Parce qu'il y a un petit mystère. Il y a un mystère. On sait qu'on connaît le nom des personnalités, des relayeurs ici. Il y a notamment Eric Dimeco. On est fiers d'avoir Dimeco porteur de flamme. Il y a des artistes. Mais il manque un nom. Qui est resté secret jusqu'à aujourd'hui. Bravo.
Est-ce que vous le connaissez ? Ou est-ce que justement pour éviter les fuites, il n'y en a que certains qui sont au courant ?
Pour éviter un peu la torture, je vous dirais que je ne le connais pas.
Donc il le connaît, mais il ne veut pas qu'on le sait.
Amenez les appareils.
Je ne connais pas, et ça, ça va être tout l'enjeu. C'est peut-être la chose la plus dure sur l'organisation des jeux, c'est de maintenir secret.
Il y a un nom qui circule.
On a une grosse petite idée quand même.
Alors vas-y.
C'est le maestro, c'est le numéro 10 légendaire, c'est Zizou. Enfant de Marseille, les informations qui circulent après. Peut-être qu'on se trompe.
Il y en a beaucoup d'informations qui circulent.
Mais on se trompe rarement.
Ça vous amuse, ça ?
Ah bah oui, forcément. Donc on dément rien. Mais on affirme.
C'est ça, qui ça peut être d'autre ? Enfin, qui ça peut être
alors, impression.
Tant que c'est pas Anne Hidalgo, c'est l'essentiel. Hein.
À Marseille, ça serait bizarre.
elle serait capable.
Alors, Joël,
les politiques peuvent pas porter la flamme.
Tant mieux.
Ah oui, c'est la règle. Là, un indice, ce sera pas.
Ça, c'est la règle.
C'est la règle.
Donc, ça sera pas Emmanuel Macron, parce qu'il sera là tout à l'heure. Macron, il sera pas porteur de flamme.
Politique. Ou alors, faut qu'il démissionne. Religieuse ni politique. Ne peut
alors, justement, impression d'arriver dans une ville qui va vivre l'événement olympique. Joël Dagosséry, alors.
C'est c'était très joyeux dès hier soir parce qu'il y avait un concert à côté du Mucem. Donc c'était festif. Ça fait du bien parce qu'on sort de Paris de la grisaille, d'arriver sous le soleil et c'est la fête. Ça faisait un peu
le Mistral planètes. Est tombé en plus, parfait.
Exactement. Non, c'était vraiment festif, c'est joyeux, c'est bien. On se met dans l'ambiance assez tôt parce que nous Paris c'est un peu plus tard, donc assez tôt dans l'ambiance. Après c'est vrai qu'on commence à sentir ce que ça va être en termes de contraintes de déplacement quand même, parce que il y a plusieurs rues, plusieurs accès qui sont bloqués. Donc on commence à voir un peu ce que ça risque d'être. Mais pour l'instant en tout cas c'est vraiment festif et voilà, il faut profiter de ça.
Tu fais pas partie des ronchons, donc tant mieux.
Bah, je ronchonne parce qu'ils nous ont fait une communication qui était vraiment très dure, dans le sens où ça, c'était un peu une communication, vous allez être embêtés, en gros. Donc j'ai ronchonné par rapport à ça, mais moi je suis très contente qu'on ait les Jeux Olympiques et je compte bien en profiter, donc voilà, c'est très bien.
Didier.
Bah, l'impression que ça donne quand tu traverses le Vieux-Port ce matin, on l'a fait ensemble Alain, c'est quand même que le Vieux-Port est sous cloche, que le risque... attentat est certainement très présent, que tout le monde est sur les dents et que c'est pas de passe droit. Et du coup, vu de l'extérieur comme on l'a fait ce matin, t'as quand même l'impression que les JO, ça va être pour quelques privilégiés qui auront le passe autour du cou comme on l'a aujourd'hui. Et finalement, le commun des mortels, il est plutôt emmerdé. On a vu des gens ce matin à côté de nous qui allaient travailler. Il n'y avait pas encore d'instructions pour qui passe, qui passe pas. Enfin, moi, j'ai quand même le sentiment que pendant tous ces Jeux, il y aura quelques privilégiés qui vont... profiter de l'événement, et puis il y a ceux qui auront les contraintes et qui devront aller bosser et qui seront très loin de l'événement.
Alors Étienne Taubois, ouais, ça sera le jeu pour tous, les jeux pour tous vraiment.
Je pense que nous c'était les jeux grands ouverts, c'est un peu notre slogan, et je crois que Tony Estanguet et puis l'ensemble des acteurs l'ont voulu comme ça. Quand on regarde tout ce qu'on fait justement pour faire de ces jeux que ce soit une grande fête, on parle du relais de la flamme, ça commence maintenant, 17 000 km, 450 villes traversées, ça va être la fête partout, c'est gratuit ici, hein, 150 000 personnes qui sont attendues, c'est super. Pour la première fois, pendant les Jeux, il y aura des espaces de célébration partout en France, plus de 200 espaces de célébration, il y aura la possibilité de regarder toutes les épreuves sur route, gratuitement partout dans la ville. On va avoir pour la première fois une cérémonie d'ouverture avec plus de 200 000 personnes sur les quais, plus 100 000 personnes sur les quais, mais c'est 200 000 personnes sur les quais qui pourront venir gratuitement. On a ce marathon pour tous, cette opportunité pour la première fois pour le grand public, pour des gens gratuitement là aussi, de pouvoir participer le marathon. Donc on a ouvert les jeux au maximum.
Non, mais moi je parle pas de prix. Je parle pas de prix. C'est juste qu'à un moment donné,
c'est des centaines de millions de personnes qui.
Non, mais la charge sécurité qui pèse sur les jeux fait qu'à un moment donné, t'as l'accréditation ou t'as pas l'accréditation.
Non, parce qu'il y a des gens il y a 150 000 personnes sans accréditation qui vont pouvoir venir aujourd'hui. Mais s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de fête.
Oui, mais surtout que Didier Giraud, il fait partie de ceux qui pourraient être le premier à râler s'il y avait des problèmes de sécurité, si tout d'un coup il y a un trou dans la raquette, si jamais il y a des gens qui arrive à s'introduire dans la zone interdite pour venir perturber le parcours. On sait très bien qu'il peut y avoir des revendications sociales.
Mal fait, mais
au-delà du terrorisme, il peut y avoir n'importe qui peut venir brandir une pancarte, vouloir perturber le parcours. D'ailleurs. Donc Didier, je sais très bien que tu serais le premier à aller dans les grandes gueules si jamais on laissait faire.
Ah mais je dis pas que c'est mal fait. Je dis que le contexte sécurité fait peser une charge sur l'événement, c'est tout, voilà. Et que ça, de jeu en jeu, je pense que pour les organisateurs partout, c'est de pire en pire. Voilà, c'est ça que je regrette.
Non, mais c'est vrai qu'on vit dans un monde.
Moi, je dis pas que c'est bien ou que c'est mal.
Parce que le monde est quand même comme ça,
où il y a des tensions, il y a des revendications, et c'est bien d'ailleurs. Et nous, on essaye de discuter au maximum, parce que c'est aussi un territoire d'expression universel.
Non, je trouve ça plutôt bien. Bon, moi, j'ai été bloquée, par exemple, pour accéder au plateau. Il y avait le préfet qui était là et qui surveillait un peu tout. Donc, tout le monde a très bien fait son travail. Et je trouve ça plutôt bien. C'est vrai que c'est un peu lourd, mais c'est rassurant pour nous parce que, en fait, tout le monde pourrait passer, commettre un attentat. Et on n'a pas envie de ça. On n'a pas du tout envie que la fête soit gâchée. Donc, je préfère qu'il y ait beaucoup de sécurité plutôt que ce soit un peu laissé passer.
C'est des contraintes auxquelles il va falloir se plier pendant un temps donné.
Ça te choque, toi, Mehdi, ce trop plein de sécurité? Non,
ça me choque pas du tout. Je préfère trop de sécurité que pas assez. Ce matin, un exemple concret. On était à l'hôtel à quelques kilomètres d'ici. Olivier et Anaïs sont venus en trottinette et en vélo. Je sais pas, ils ont eu la brillante idée de venir en trottinette et en vélo.
C'est agréable de traverser Marseille en trottinette matin avec ce beau soleil.
Non, c'est juste parce que tu avais peur d'arriver en retard. Mais moi, avec mon gabarit, j'ai préféré la sécurité, j'ai pris un Uber.
C'est vrai que sur un vélo...
Un Uber van avec son gabarit.
C'est vrai que midi sur un vélo...
C'est une bétaillère, en fait.
On n'a jamais vu des photos, là.
Non.
C'est pas près d'arriver. Et donc, le Uber m'a déposé le plus normalement du monde. On s'est fait arrêter une sorte de feu rouge, il y avait des voitures de police. Ouais. Ils nous ont demandé d'ouvrir le coffre. Enfin, ils ont demandé au chauffeur Uber d'ouvrir le coffre. Il a ouvert le coffre, c'est parti. Ouais. Mais tant mieux, cette présence policière est nécessaire dans le monde dans lequel on vit, avec la menace qu'il y a actuellement dans le monde, c'est nécessaire. Et puis voilà, c'est les Jeux Olympiques.
Ce qui est important, c'est qu'on informe bien.
Voilà, et qu'il y ait une bonne communication.
C'est ce qu'on essaye de faire avec le préfet de police à Paris, etc. On a fait un certain nombre de conférences de presse, mais aussi des informations pour que les gens puissent vivre leur vie normalement, les commerces puissent continuer à fonctionner, etc., malgré un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place. C'est pour ça qu'on a commencé très très tôt. Il y a des dispositifs digitaux qui existent sur les transports, sur la sécurité, etc. Et on va continuer à communiquer, parce que il faut que les gens puissent s'organiser, parce que c'est vrai qu'il va y avoir quelques contraintes, mais pour autant, c'est la condition de la fête réussie. Et puis,
et franchement, ça va permettre de faire
la porte-parole
des Jeux. Excusez-moi, le Uber, je lui ai ni dit que je faisais partie des grandes gueules, ni RMC, ni émission,
pas
ni
reconnu quoi
que
ce soit.
Non, il ne m'a pas reconnu. Mais si, en plus, il m'a reconnu. Mais il est venu directement ici, il n'y avait pas de restriction de circulation. Ouais. Le Waze a donné les
Camille Chaise, la porte-parole.
Je salue les Uber de ce matin, d'ailleurs.
Camille Chaise, la porte-parole du ministère de l'Intérieur, qui était l'invité ce matin de Charles Magnin, expliquait qu'il y avait 6000 policiers et gendarmes déployés. Je crois que c'est le plus gros déploiement de forces de l'ordre qu'a connu Marseille. C'est du jamais vu. On a concentré vraiment le maximum de policiers et de gendarmes pour que la fête soit réussie.
Bien, vous restez avec nous, Étienne Taubois, le directeur général de Paris 2024. Ces contraintes, puisque nous sommes à Marseille, ça va, vous vous y pliez sans trop ronchonner. 32-16 pour en discuter avec les GG, avec les grandes gueules. Journée exceptionnelle aujourd'hui dans la cité phocéenne pour l'arrivée de la flamme. Les grandes gueules, ils sont en direct de 9h à midi. À tout de suite avec les GG, Didier Giraud, Joël Dagosséry et Mehdi Guézard.
RMC, 9h midi, les grandes gueules en direct de Marseille.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct de Marseille pour l'arrivée de la flamme olympique tout à l'heure en fin d'après-midi, début de soirée, la flamme sur le Belém et les GG avec Didier Giraud, avec Joël Dagosséry, avec Mehdi Guézard sont en direct du MUCEM avec Étienne Taubois, notre premier invité, c'est le directeur général de Paris 2024. Je me demandais là pour la mobilisation, vous avez combien de bénévoles au total mobilisés sur cet événement des Jeux Olympiques?
Alors sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, hein, parce que les Jeux Paralympiques, c'est pour nous aussi super important, ce sera 45 000 bénévoles.
45 000 salariés déguisés alors?
Non, c'est 45 000 bénévoles. 300 000 personnes ont souhaité apporter leur temps et leurs compétences dans le cadre des Jeux, donc c'était une sélection, mais on a 45 000 personnes mobilisées. Il y a trois semaines, on a fait une grande fête à la Défense Arena où ils étaient plus de 20 000 qui étaient là. Ça nous a mis une pêche d'enfer parce qu'ils ont... voilà, ils ont la banane, ils ont envie de participer, ils ont envie d'accueillir le monde et puis de vivre un truc qui sera assez magique.
Ouais. Moi, je suis très étonné, j'ai vu des reportages là-dessus, c'est l'engouement des étrangers, quoi. Dans les bénévoles, il y a une proportion, alors qui est peut-être négligeable, mais de gens étrangers qui voulaient y être, quoi.
Ouais, mais on a eu 14 000 Mexicains qui ont voulu.
Ah oui. Non, mais c'est impressionnant.
Gens après les Français, donc c'était on a plus de 150 pays qui seront représentés au sein de notre équipe de bénévoles. C'est à peu près 20% du nombre de bénévoles, mais on en a de partout de la France. Les 101 départements seront représentés. Et c'est une super équipe.
Ouais. Alors justement, puisqu'on parle des départements,
tu permets, Olivier, parce que dans un instant, mais parce qu'on a un bénévole justement au 32-16.
Ah, super.
C'est Vincent.
Il est mexicain. Bonjour, Pablo.
Hola. Bonjour.
La Quetal.
Bonjour, Vincent de l'Ardèche. Bonjour.
Bonjour, les grandes gueules. Vous allez bien?
Ouais, bienvenue Vincent, parce que vous nous avez appelé au 32-16, parce que vous-même vous êtes bénévole, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce qui vous a fait vous engager là pour les JO, vous dire allez j'y vais?
Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps, on s'était eu au téléphone justement concernant le sujet des Jeux Olympiques par rapport à Anne Hidalgo. Moi, ce qui me pousse à faire les Jeux Olympiques, c'est déjà d'être bénévole et d'être participé aux Jeux Olympiques. Et de deux, je fais toutes les grosses compétitions qui a lieu en France. Et d'être bénévole et de participer et de partager avec des gens qui viennent du monde entier, c'est juste magique. On découvre d'autres cultures, le partage, c'est rigolo. D'être bénévole, c'est tout simplement une grande famille. Et je suis fier de faire partie des bénévoles qui participeront aux Jeux Olympiques en France.
Ça va être quoi votre rôle, vous, en tant que bénévole? Qu'est-ce que vous allez faire alors? D'accord.
Je suis chauffeur au Stade Vélodrome.
Ah, au Stade. Donc vous êtes ici en ce moment.
Vous êtes mobilisé.
Oui, je suis à Marseille.
D'accord. Et fier d'être là et vous savez exactement, précisément ce que vous allez faire aujourd'hui?
Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, là, à l'heure où on se parle, je viens en tant que touriste pour l'arrivée de la CAM. Parce que c'est à Marseille et que je. C'est une fierté de l'avoir arrivé, la femme à Marseille et de voir toutes les animations qu'il va y avoir autour. Et après, pour les JO, je débute le 16 juillet jusqu'au 12 août.
Alors, il faut peut-être rappeler quelles sont les épreuves accueillies ici à Marseille.
Il y a la voile et le foot.
D'accord. Donc, par exemple, au Vélodrome, vous allez gérer le foot.
Non, je suis chauffeur. En fait, je vais transporter des gens d'un point A à un point B.
Voilà, c'est ça.
Mmh. Et content d'y participer. Bénévolement, c'est-à-dire pas de défraiement, rien du tout. Vous n'avez pas l'impression d'être un salarié déguisé, Vincent ?
Il vit ici.
Non. Salarié déguisé, non. Parce que c'est mon bon vouloir de faire ça, en fait.
Ouais, c'est ça. C'est pour participer à l'événement, quoi.
C'est ça, exactement, d'être au cœur et de pouvoir dire j'ai participé aux Jeux Olympiques en France.
Merci Vincent d'avoir été avec nous et bon JO alors. Merci d'avoir été dans les GG, dans les grandes gueules. Bonne journée.
J'ai une question qui fâche parce que après Marseille, donc on l'a dit, la flamme jusqu'à fin juillet va parcourir toute la France, 5000 kilomètres à travers 17 000 kilomètres à travers une soixantaine de départements. Alors il fallait que les départements payent. Hein. C'est pas gratuit. Je crois que c'était 180 000 euros pour accueillir la flamme dans son département. Il y a certains départements qui ont jugé la facture trop salée, notamment des départements d'opposition, ce qui fait qu'il y en a une trentaine qui ont décidé non. Par exemple, la flamme ne passera pas par Lyon, car le département du Rhône, comme la métropole d'ailleurs de Lyon, donc le département c'est LR, la métropole c'est les écololos, ils n'ont pas voulu payer.
D'abord, au début, on avait un projet de passer par les grands sites français, puis on nous a dit qu'il faut qu'il y ait place partout. Et donc on s'est mis autour de la table avec notamment l'association des départements de France qui a dit ouais, ce serait quand même vraiment bien qu'on puisse proposer à tout le monde, mais du coup ça a rallongé la longueur du relais. Et donc de fil en discussion on a dit comment on fait, et puis on a eu cette idée de se dire voilà, on va demander 150 000 hors taxe, 180 000 euros de participation, ce qui nous permet d'aller un peu partout.
Ça paye les frais,
et ça paye une partie des frais parce qu'il y a un budget significatif, près de 30 millions d'euros pour le comité d'organisation.
Qu'est-ce qui est si cher dans le parcours de la flamme,
Vous allez voir, il y a toute la sécurité, il y a les relayeurs, il y a toute l'organisation, il y a les uniformes, il y a les repérages, il y a toute la
les déplacements.
C'est comme une épreuve sur route.
J'ai bien regardé la carte, j'ai quand même un problème. Alors, certes, c'était volontairement que les départements payaient. Mais enfin, la diagonale du vide qui va de Besançon à Périgueux, là, elle est quand même super bien marquée sur la carte. Et que les départements aient pas voulu payer par idéologie politique, je peux l'entendre. Je crois aussi que la diagonale du vide qui se dessine sur la carte de la flamme olympique, c'est les endroits où les gens ils considèrent que 180 000 euros, ça coûte du pognon et on le met ailleurs, quoi. Et moi, ce que
c'est
je
des départements moins riches.
Moi, je trouve que ça dessine très bien la diagonale du vide économique, quoi.
À chaque fois qu'on a trouvé des solutions, on parlait tout à l'heure de Alpes ou des départements, pourtant on va aller à Chamonix parce que le symbole est fort et on a trouvé d'autres partenaires pour le faire, etc. D'accord. Donc il y a aussi une volonté, à chaque fois que les gens ont vraiment voulu avoir la flamme, on a trouvé des solutions. Et encore une fois, 450 villes traversées, 17 000 km, dizaines de millions de personnes.
Parlons gros,
moins d'une heure de la flamme.
Quelle sera la facture finale, est-ce qu'on la connaît déjà, et quelle sera la part du privé, du public.
Alors, les jeux, donc il y a le budget du comité d'organisation, celui que je dirige, que préside Tony Estanguet, c'est de 4,4 milliards d'euros. C'est un budget qui a évolué d'une quinzaine de pourcents depuis le début. On nous avait dit ça va exploser, tout ça. 15% d'évolution, moins que l'inflation, globalement, depuis 2017.
Et c'est des jeux moins chers que ceux
de Londres. Et c'est financé par des fonds privés.
D'accord.
96% du financement des jeux et 100% des Jeux Olympiques, c'est du financement privé, c'est trois grands tiers, c'est les droits télé et une contribution sur les top sponsors qui sont gérés par le CIO, donc qui contribuent à hauteur d'un milliard quatre.
Les droits télé, quand c'est France Télévisions qui achète, c'est notre argent quand même.
Mais il n'y a pas que France Télévisions qui achète. Mais globalement, c'est géré par le CIO et c'est une contribution. Il y a la billetterie, D'accord. À peu près un tiers. Et il y a le sponsoring, où on a bouclé, on a 80 partenaires des jeux qui financent près d'un
milliard. Donc c'est
4,
essentiellement de l'argent privé.
Et les 4% qui restent, ils sont ciblés sur les Jeux Paralympiques, qui est un événement qui, voilà, qui ne s'équilibre pas en tant que tel. Et donc il y a un peu plus de 170 millions d'argent public qui
est sur les
emplois. Et on a réussi, c'est 96% d'argent privé.
Voilà. Alors justement, comment on a réussi à limiter effectivement le surcoût, 15% c'est rien par rapport à ce que Athènes par exemple a vécu. C'était vraiment une obsession justement de ne pas dépasser,
Nous on a mis le curseur de manière assez simple, on ne dépensera que ce qu'on aura gagné. Donc en gros, c'était la logique dès le départ, c'est d'atteindre l'équilibre sur cette organisation. Et puis après, force est de constater qu'on avait peut-être pas trop mal prévu notre coût et que du coup, il y a eu assez peu d'évolution. Par ailleurs, les entreprises françaises ont été au rendez-vous, parce qu'on est
Les plus gros sponsors.
On a des sponsors. Il y a les sponsors du top programme international, les Coca, les Samsung, Coca qui financera le concert ce soir. Et puis après, on a les grandes entreprises françaises,
LVMH,
BPCE, LVMH, etc. Et donc, on a aujourd'hui des entreprises qui ont été au rendez-vous pour aider à financer, mais aussi amener leur expertise. Et puis, les PME françaises se sont hyper mobilisées. On a passé un certain nombre d'appels d'offres, 1300 appels d'offres. 90% de nos marchés, c'est des entreprises françaises qui ont répondu présent. 75% de PME, PMI, on en est hyper fiers. 10% de l'économie sociale et solidaire. Donc on a réussi à être globalement et collectivement au rendez-vous. Et puis chacun s'est défoncé pour tenir les objectifs, les coûts. Et
ça c'est une bonne chose. Je crois qu'il y a quand même un choix depuis le début qui est quand même aussi de réutiliser les infrastructures existantes.
Exactement.
À part la grande piscine en face le Stade de France, rien n'a été construit pour l'événement. Et ça, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire des Jeux Olympiques.
On avait plutôt bien prévu notre coût. On construit un village. Olympique, donc c'est 3000 logements, on a besoin de 25 000 logements par an en Île-de-France, un village des médias, et puis en effet cette piscine dont on a fort besoin, une salle de 8000 places à la chapelle, et le reste
c'était de l'extérieur. Joël, et ensuite on va au 32-16 écouter Corinne qui est commerçante à Marseille justement avec une question, et peut-être quelqu'un qui râle pour Étienne Thauvois, le DG de Paris 2024. Joël.
Je voulais savoir, est-ce que dans combien de temps on saura si les Jeux ont été... ont rapporté.
Rentable.
Est-ce que c'est rentable? Merci. Est-ce que c'est juste à la fin des Jeux? Est-ce que c'est à 6 mois? Est-ce que c'est à 1 an? Parce que les répercussions peuvent aller jusqu'à combien de temps après la fin des Jeux?
Il y a une étude qui a été confiée au Centre d'économie et de droit de Limoges, donc qui reprend des méthodes de calcul scientifiques, etc., l'OCDE, etc. Aujourd'hui, on évalue entre 6 et 11 milliards les retombées. L'impact économique des Jeux, donc ce qui vient en plus. Nous, on est sur un chiffre à peu près 9 milliards, c'est l'hypothèse centrale. 9 milliards de retombées économiques, c'est 180 000 emplois qui sont mobilisés, ça ne veut pas dire création d'emplois, mais c'est 180 000 emplois qui sont mobilisés. En direct, nous, les marchés des Jeux, c'est un peu plus de 2,5 milliards, sur un budget de 4,4. Il y a aussi la Solideo qui a fait les constructions, etc. Et donc c'est quelque chose qui... De mon point de vue, rapporte. Les retombées fiscales sont malgré tout très significatives, etc. Et globalement, on fera le bilan à la fin. Ouais. Et après, il y a des choses indirectes. L'impact sur le tourisme, on a vu qu'à Londres.
Dans un pays qui a fait le choix.
Mais déjà, en retombées directes, c'est très significatif.
On va passer voir Corinne, qui est marseillaise, qui est commerçante. Bonjour Corinne.
Bonjour.
Bienvenue dans les GG. Alors, est-ce que vous faites partie de Marseillais heureux, oui ou non, Corinne?
Moi, je suis très contente pour ma ville et je trouve que ça va être un événement magnifique. Ce que je regrette beaucoup, c'est qu'il y a certains résidents, comme moi, j'ai la chance de vivre en dessous de la corniche, donc je ne vais pas me plaindre, mais qui sont assignés à résidence. C'est-à-dire que là, c'était 3 jours sans bouger de chez moi, pas de vélo, pas de trottinette, pas de voiture, rien. Je suis partie parce que j'ai dit j'ai pas envie de passer 3 jours printemps magnifique enfermé à la maison. Je vais vraiment.
Vous pouvez pas sortir de chez vous.
En fait, la rue est complètement bouclée, même aux résidents.
Et donc. Et le commerce.
Et alors mon commerce, moi j'ai un institut de beauté en centre-ville. Hier c'était déjà la pagaille. On a eu la moitié des clients qui ont annulé ou qui sont arrivés très en retard. J'ai dit c'est pas la peine. Pareil, les clientes elles peuvent
donc,
pas
venir.
Donc
c'est du chiffre en moins.
Centre-ville. C'est trois jours de fermeture. On était plein hier. Et j'ai perdu 50% de mes rendez-vous. Et aujourd'hui, je me suis dit, aujourd'hui et demain, je me dis, mais c'est pas la peine. Les clients tellement dit, on peut pas accéder au centre-ville en voiture, on peut pas venir en vélo, on peut pas venir en trottinette. Ils auraient au moins pu laisser circuler les vélos. Je comprends les problèmes de sécurité, mais ça veut dire qu'une commerçante comme moi qui vit par rendez-vous, les restaurateurs, les gens qui vendent des babioles, je pense que ça va être très bien pour eux. Mais nous, si les clients ne peuvent pas venir,
bah, oui, le commerce local, oui.
Ça n'a aucun intérêt.
Alors, qu'est-ce que vous répondez à Corinne?
C'est dommage, parce que j'aurais bien aimé profiter plus de cet événement, en fait.
Alors, attends, Étienne, qu'est-ce que vous répondez à Corinne? Vous êtes conscient du désagrément et de la perte financière, quand même.
Alors là, j'apprends qu'on ne pouvait pas passer à vélo pour les Jeux, ce que le préfet de police a prévu à Paris. Alors pardon, sur Marseille, c'était peut-être un one-shot, donc c'était peut-être un petit peu plus compliqué.
À Paris, on pourra circuler en vélo.
Mais on pourra circuler en vélo, dans la zone, circuler en piéton, dans la zone, y compris la zone, la zone dite SILT, de zone antiterroriste, la zone rouge. Et puis la zone rouge, puis la zone SILT, pas tout à fait le même périmètre, mais qui se rejoignent un peu. Et puis surtout, on pourra s'inscrire en amont, c'est-à-dire que là, la préfecture de police va lancer une plateforme...
Corinne, elle a perdu 3 jours de chiffre d'affaires.
Qui permettront de s'inscrire en amont, justement pour éviter tout ça. Ça revient à l'anticipation et l'information que j'évoquais tout à l'heure. Il faudra anticiper, il y aura des petites contraintes, il faudra inscrire, justement, les clients devront s'inscrire à l'avance pour pouvoir avoir leur QR code et pouvoir passer. Mais c'est les conditions, encore une fois, qui ont été fixées par...
Donc c'est pas vous, ça c'est la préfecture, ça, alors?
Bah, c'est les mesures de sécurité
Son argent, elle le rattrapera pas, Corinne, quoi.
Ouais, mais je...
C'est un jour férié.
Je ne sais pas quoi dire à Corinne. Oui. Voilà, les gens n'ont pas anticipé, comme elle le disait, ils sont arrivés en retard, etc. Mais c'est pour ça que je redis l'information, l'anticipation, c'est absolument clé. Et ça, on s'en sent responsable. Donc, désolé, Corinne.
Désolé, Corinne. C'est les désagréments, malheureusement,
Midi,
des
vous voulez ajouter quelque chose ?
Non, mais on est en week-end avec des jours fériés. Je voulais demander justement...
C'est un viaduc, même.
Est-ce que Corinne, est-ce qu'aujourd'hui, elle aurait dû être ouverte ou c'était déjà prévu d'être...
C'est ce qu'elle disait, c'est que malheureusement, elle a dû annuler ses rendez-vous.
Ses rendez-vous même d'aujourd'hui.
Ah oui, c'est ça. Merci, Corinne. Merci, Étienne Taubois, DG de Paris 2024, d'avoir répondu à toutes les questions.
Et bon courage.
Je n'aimerais pas être à votre place dans les 3 mois qui viennent.
Hein. Un mot.
Vous n'avez pas beaucoup dormi.
Je suis ravi d'être.
Non, mais il a l'air assez serein. Mais c'est sympa parce qu'on voit.
Il est sous Xanax, mais il est serein.
On voit la sortie des petits bateaux du vieux port. Alors, ce sont les bateaux qui vont accompagner le Belém. Je sais qu'il y a 1000 bateaux.
C'est ça, 1024 bateaux qui vont.
Ils sont en train de sortir.
Il y en a déjà beaucoup dehors.
Il y en a beaucoup dehors qui sont en train de sortir du port.
Ils sont 400 dans le vieux port qui vont sortir.
On les voit là derrière vous. C'est magnifique. Et le Belém arrive.
Quelques pointus qui ont mis les taux pour se protéger. Protéger du soleil parce que ça y est, ça se lève et il commence à faire ça.
Nous, on va prendre un sacré coup de soleil.
Moi, ça va, je suis
fait du bien.
Dans un instant, on va revenir à l'actuel à mode GG. On s'en fout pas. Les carburants qui continuent de monter. La 13 qui va quand même rouvrir. Et puis, Depardieu, Emmanuel Macron revient un peu sur les propos qu'il avait tenus concernant l'acteur. À tout de suite avec les GG en direct de Marseille de la terrasse du Mucem.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules en direct de Marseille.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec une vue exceptionnelle sur la Méditerranée et la passe par laquelle va arriver le Belém porteur de la flamme tout à l'heure en fin d'après-midi. RMC, la radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024 et nous sommes dans la cité phocéenne à l'occasion de l'arrivée de la flamme. Didier Giraud avec Joël Dagosséry, avec Mehdi Guézard.
Faut préciser que le Belém entrera dans le port de Marseille tout à l'heure vers 19h, mais avant cela, il va arriver au large de la cité phocéenne, aller sur la rade nord, la rade sud, et il sera accompagné par des milliers de bateaux. Et
ces
bateaux
1024.
1024 précisément, Didier a retenu le chiffre. Et ces bateaux sont en train de sortir du port de Marseille, juste derrière nous.
C'est superbe.
C'est dingue, c'est magnifique. Il y a un balai de petits bateaux moteurs à voile, tous ces Marseillais qui vont participer à la fête.
Alors, on va quand même bien sûr évoquer les Jeux et puis l'actualité à la mode GG. C'est l'heure du on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Anaïs Sainz, bonjour.
Bonjour les GG, bonjour à tous. L'affaire Gérard Depardieu. Emmanuel Macron assure dans une interview dans Elle ce matin qu'il n'y a jamais eu chez lui de complaisance vis-à-vis de l'acteur. Le chef de l'État affirme n'avoir jamais défendu un agresseur face à des victimes. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Joël? S'en fout pas. Didier.
On s'en fout un tout petit peu, mais on s'en fout pas.
C'est intéressant, c'est un concept.
Ah, c'est...
On s'en fout pas.
déjà mis en examen pour viol. Gérard Depardieu sera jugé en octobre à Paris pour agression sexuelle sur deux femmes lors d'un tournage en 2021. On rappelle que fin décembre, Emmanuel Macron avait pris sa défense, saluant un immense acteur qui rendait fière la France. Il avait même dénoncé une chasse à l'homme. Pourquoi on s'en fout pas, Joël ?
Il a l'air d'être amnésique. Enfin, on a très bien en tête ce qu'il a dit. Effectivement, il est allé sur la partie acteur, mais on lui a posé une question sur la partie agresseur. Et lui, il est venu en disant c'est un immense acteur, etc. Enfin, c'est pas ce qu'on lui demandait.
Il avait parlé d'une fierté française.
Exactement. C'est pas ce qu'on lui demandait. Donc là, il revient un peu sur ses propos. Pour moi, je considère qu'il a bien défendu un agresseur face à ses victimes.
Et il dit aujourd'hui qu'il a insisté sur la présomption d'innocence. Il a rappelé ce principe.
Non mais bien sûr qu'il n'était pas condamné, mais il aurait pu rester neutre ce jour-là. Il aurait pu dire je préfère ne pas me prononcer, comme ils le font très bien les politiques.
Il rétropédale un
peu. Il aurait pu le faire et c'est pas ce qu'il a choisi de faire. Donc pour moi, il a défendu Gérard Depardieu. Didier.
Écoute, on s'en fout un tout petit peu parce que quand les politiques commentent ce qu'ils n'ont pas à commenter, sur le fond, on s'en fout un tout petit peu et on s'en fout un tout petit peu de plus en plus. Mais on s'en fout pas parce que
Didier.
On s'en fout pas parce que l'info elle est importante. Il a quand même rétropédalé et du coup tu peux pas à un moment donné dire Gérard Depardieu est un immense acteur et dire un mois après j'ai toujours protégé les victimes par rapport aux agresseurs. On ne sait pas dans quel camp est Gérard Depardieu. Il y a des faisceaux qui prouvent qu'il n'y a quand même pas rien dans l'affaire Depardieu. Et je pense quand même, moi, où ça m'exaspère, c'est que quand tu es président de la République, mon Dieu, mais commente l'actualité politique. Arrête de commenter le people.
Donc quand on lui pose
mais en même temps, il s'en fout parce qu'il a fait ça toute sa carrière, Macron. Et aujourd'hui,
il aurait dû dire quoi ? Laissons la justice faire.
Mais qui ferme sa gueule là-dessus, quoi ? De quoi il a besoin de dire que Gérard Depardieu est un immense acteur ? Tout le monde l'a dit dans, le monde du cinéma,
le débat n'est pas sur ça, d'ailleurs.
D'autres l'a dit. En quoi la parole du président de la République, elle amène quelque chose ? Elle amène rien du tout, la parole du président.
Si, elle a amené de la polémique.
Bah, de la polémique.
Mais dis.
Ce qui me fait sourire, c'est que vous êtes tous autour de la table assez crédules pour penser ou croire qu'un politique dit la vérité. Emmanuel Macron a fait du Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a fait du politique. Il a tout dit. Il a dit son contraire un mois après, tout simplement.
Ouais.
Mais peu importe le de quel bord politique nous sommes.
Rien de nouveau sous le soleil.
Il y a rien de nouveau sous le soleil. Et ils sont tous par rapport au vent qui tourne, tout simplement.
Les GG. Alors que des milliers de Français sont sur le départ pour le pont de l'Ascension, les prix à la pompe explosent sur les autoroutes. Les prix qui dépassent largement la barre symbolique de 2 euros le litre dans de nombreuses stations-service. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Mehdi ?
Pas du tout.
Didier ?
On s'en fout parce qu'il faut être con pour faire le plein sur l'autoroute.
Ah oui, mais... Ouais. Joël,
on s'en fout.
C'est le Parisien qui en fait le constat ce matin, rappelant que les axes payants sont déjà en moyenne 15 centimes plus chers que sur le reste du réseau. Mehdi, pourquoi on s'en fout pas ?
On s'en fout pas parce qu'on va répéter ce qu'on répète inlassablement depuis 2 ou 3 ans. Tant que le carburant sera taxé à hauteur de 62%, ça ne marchera pas. Parce que je ne pense pas que le pétrole ait augmenté de presque 100% en 3 ans. Et tout simplement, c'est un serpent qui se mord la queue. Plus le prix monte, plus les taxes sont importantes pour l'État. Et ça ne, c'est pas la peine de polémiquer 1500 ans, de faire des articles dans le Parisien. Pour baisser le prix du carburant, il y a une et une seule solution. C'est que le gouvernement revoie sa taxation par rapport à ça. Tant que le gouvernement ne reverra pas sa fiche sur la taxe, ou sur les taxes, pardon, parce qu'il y a énormément de taxes, il y a plusieurs taxes sur les carburants, ça ne bougera pas.
Et des taxes sur la taxe.
Sur la taxe, et ça continuera.
Et sur l'autoroute, il y a encore des taxes.
Et ça continuera inlassablement d'augmenter. Là, on est à 2 euros. Moi,
attends, sur l'autoroute, on n'est pas à 2 euros. On est à
2,10 euros, quoi, ou 2,40
euros. 2,40
euros. Voilà. Et moi, je vous donne le pari que d'ici 2026, à l'époque, l'ancien PDG de Total l'avait dit, Christophe de Margerie, il est plus de ce monde malheureusement, on arrivera à un prix qui sera qui dépassera les 3 euros. Mais après, on s'en fout.
Je m'en foutais, mais quand même, Quand tu penses que c'est avant les vacances, hein, et quand tu commences à faire tes calculs, c'est-à-dire que tu te dis, tiens, je vais prendre un train. Tu regardes les trains de la SNCF, ça coûte un bras.
Plus 12%.
Qu'est-ce qu'on va prendre la voiture? Tu regardes le carburant, ça te coûte deux bras. Bah, franchement, ça devient de l'assignation à résidence.
Attends, mais prends l'avion à la maison.
Ça devient de l'assignation à résidence.
Deux bras et deux jambes.
Non, mais Didier, il a dit, il faut être con pour faire le plein sur autoroute.
Ouais, mais quand t'es en route.
Écoute, moi, j'ai fait mon plein hier avant de partir à la gare à Lyon pour venir ici.
Tu diras ça aux mecs qui viennent.
J'ai payé mon litre de gasoil 1,71€. Ouais, voilà.
Tu diras, après, tu diras, quand tu dois refaire
le chemin, si tu préfères payer ton gasoil 2,40€ sur l'autoroute, très bien, d'accord, très bien. Alors, fais Didier, tu as les moyens,
alors,
c'est tout.
Alors Didier Giraud, je vais t'expliquer. La France est grande et haute et il y a énormément de kilomètres. Donc tu traites de con tous les mecs du nord qui viennent dans le sud ou tu traites de con tous les mecs du sud.
Tu sors de l'autoroute et tu vas faire le plein à 5 km. Bah non, mais attends.
Donc tu prends un autre péage.
Pardon, tu t'anticipes.
Ah, donc toi, t'anticipes. Donc, oui. T'anticipes de Lille.
Mais oui, évidemment.
Alors, de Lille, Anaïs, à Marseille, t'as plus de 1200 km. Et t'anticipes. Toi, t'as.
Mais c'est pas une voiture que t'as, c'est un avion. Sur l'autoroute.
Mais dis.
Non, pardon, c'est pas ce qu'il a dit.
Quand
tu pars de Lille jusqu'à Marseille, tu fais pas qu'un seul plein.
Mais si, tu fais qu'un seul plein.
Attends,
de Lille jusqu'à Marseille, tu réapprovisionnes une fois.
Donc, tu fais deux pleins.
Et bien, tu sors de l'autoroute. Et puis, tu la payes à 70.
Donc tu sors de l'autoroute, tu sors du péage.
Attends.
Tu re-rentres l'autoroute.
Excuse-moi, si tu ne veux pas sortir de l'autoroute et aller d'une seule traite à ton lieu de destination, t'acceptes de payer plus cher, c'est tout.
Olivier Truchot, tu vois que Anaïs et Didier sont des gens qui sont déconnectés de la réalité.
Non,
parce que Anaïs vient de te dire que de Lille à Marseille, elle fait un plein et rajoute 10 balles.
Elle
roule à l'air. Tu vois, c'est de l'air.
J'ai fait Paris-Saint-Sébastien il n'y a pas longtemps, pardon, j'ai rajouté 10€, j'ai une Golf, j'ai un diesel, ok. Bah j'ai rajouté 10€, ok, sur autoroute, mais j'ai pas fait un plein
mais
sur autoroute.
Tu sors de l'autoroute, bordel.
Mais
ça
oui,
dit
mais
quoi de
enfin, c'est quand même très contraignant.
Au lieu de bouffer un sandwich triangle dégueulasse à 40€, tu vas dans un petit resto, tu fais ton plein, le village à côté de la sortie.
Tu payes le péage et finalement, t'en as plus cher que si
tu prends. Mais arrête tes bêtises. Quand tu fais Paris-Marseille.
Bien sûr que si.
Quand tu fais Paris-Marseille. Il y a même des endroits où tu peux payer moins cher Paris-Marseille.
Non, mais il faut arrêter. Moi, ça me révolte parce que c'est vraiment la gestion de la misère. Tu le fais tout le temps. Tu comptes tes bons de réduction. Tu sais, si je vais à la caisse avec tel bon de réduction, j'aurai moins 5€ par-ci, par-là. Ah, bah, si je sors de l'autoroute et que je vais à 5 km.
D'une seule traite, et bah, tu payes.
Oui, bah, si je prends le train. Si je prends le train de nuit, avec mes 4 enfants. Non mais à un moment, on peut pas calculer sa vie comme ça à chaque fois. Enfin, faut qu'on se rende compte de ce que c'est au quotidien.
Avec Giraud ou Anaïs, ou tu payes 2,40€ ou tu vas en autostop. Tu vois ce que
mais
tu
fais non.
Du
stop.
Non mais voilà. On est débrouillard.
T'es complètement démagogique.
Je suis démago.
Alors quand tu fais
Lille, Marseille, 1200 km ou 1300 km, quelqu'un te le fait avec un plein et 10€ de plus, c'est normal. Et c'est moi qui suis démago. Non les gars, moi je suis dans la vraie.
Quand tu fais un Lille, Marseille, Midi.
Excusez-moi, je suis juste dans la vraie vie.
Ah bah écoute, dans la vraie vie, s'il y en a un des deux qui est, c'est bien moi, d'accord, Et des Lille Marseille, j'en ai déjà fait.
Faire 1200 km.
Des Lille Marseille, tu passes, je pense, entre 50 et 60 fois à moins de 3 km d'une station de grande surface où le prix n'est pas de 40, quoi. Voilà. Alors, après, si tu choisis de ne pas sortir de l'autoroute, eh ben, tu payes de 40 et t'arrêtes de pleurer.
Excuse-moi, là. Mais en fait, le problème, c'est que quoi? C'est que le prix est à 2,40, que des groupes et que l'État se gave en taxes et en pognon, et que c'est aux concitoyens de faire des détours pour payer moins cher. Mais vous avez pété les plombs. Mais
non, ça s'appelle du bon sens.
Non. On aura donc compris que les vacances
jaunes,
se résument
si vous écoutez,
à un seul trajet
qui est
Lille-Marseille à 2,40 avec une sortie à 5 km comme une station.
Et tu rajoutes 10 euros par les GG et ils ont trouvé
le moyen de s'engueuler pendant 8 minutes sur un seul trajet qui est le Lille-Marseille.
Moi, Alain,
les amis, dans un instant, suite des grandes gueules,
c'est pas 2,40.
En direct de Marseille du Mucem pour l'arrivée de la flamme.
RMC, les grandes gueules en direct de Marseille pour l'arrivée de la flamme.